Bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir noté ce nouveau numéro de votre émission littéraire. Voici, comme chaque mercredi à 21h, Wagon Livre. Si vous venez de nous rejoindre sur le 90.5 dans Lyon, ou si vous nous écoutez en direct sur le www.radion.fr, voici ce soir une émission qui, grâce à notre invité, que je vous présenterai d'ici quelques secondes, va nous donner l'opportunité de redécouvrir la vie et l'œuvre de l'écrivain Georges Bataille, né en 1897 et disparu en 1962. Georges Bataille qui a vécu, qui a travaillé à Vézelay et qui repose d'ailleurs au cimetière de la colline éternelle. Christian Limousin, bonsoir.
Bonsoir Yannick Petit.
Merci à vous donc d'être devant ce micro, c'est pas tout à fait naïf ni gratuit si vous vous trouvez devant ce micro, parce que vous êtes un lecteur de Bataille depuis sans doute l'adolescence.
Tout à fait, depuis plus de 40 ans maintenant, donc c'est dire, c'est situé à peu près mon âge.
Et puis sur un plan universitaire, vous en avez fait le sujet de votre thèse.
C'est vrai, mais c'est il y a bien longtemps.
Alors Christian Limousin, certaines personnes qui nous écoutent ce soir vous connaissent déjà puisque vous avez été enseignant de lettres, vous êtes également poète, très investi dans la vie des arts, la littérature, mais aussi les arts plastiques, vous êtes également critique d'art.
Oui, j'essaie d'être tout ça, mais beaucoup de ces choses que vous avez citées, de ces activités que vous avez citées, convergent ou viennent de Georges Bataille. Effectivement, Georges Bataille est un peu ma colonne vertébrale depuis bien longtemps.
Alors, vous avez aussi organisé un colloque auquel vous avez largement participé sur Max Paul Fouché.
Oui, c'était en 2010, à Vézelay, précisément.
Et vous avez réuni les différentes interventions, les différents textes dans un ouvrage paru aux éditions universitaires de Dijon, Max Paul Fouché et les arts plastiques.
Tout à fait.
Et puis alors, Christian Limousin, vous êtes aussi cofondateur du collectif Bataille qui s'est mis en place afin de commémorer le 50e anniversaire de la mort de Georges Bataille.
Eh bien oui, c'est un événement qui est inscrit aux commémorations nationales et il nous a semblé à Vézelay qu'il était absolument nécessaire de faire quelque chose aussi avec quelques amis. Ben, nous nous sommes lancés dans ce collectif Lire Bataille 2012 qui présente des activités extrêmement diverses, on va dire, qui vont de la conférence classique à la lecture, au théâtre, à l'exposition. Et puis notre présidente, Claudie Stassard, donc, a sorti un livre de Georges Bataille aux éditions de La Goulotte, qu'elle co-dirige, « Par-delà la colline ou l'instant », un extrait du Coupable dont nous parlerons peut-être tout à l'heure.
Et puis, précisons que ce vendredi, le vendredi 29 juin à 18h30 à la Maison Jules Roy, vous donnerez une conférence en relation donc avec la sortie du livre dont vous venez de parler et qui évoquera la bataille à Vézelay.
Tout à fait, c'est vrai qu'on est souvent interrogé, mais Bataille à Vézelay, c'est quand, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a écrit, et donc j'essaierai de répondre à ces questions, on va dire, élémentaires. Ce n'est pas une conférence qui a grande prétention intellectuelle, mais simplement de faire une présentation, un état des lieux, Bataille à Vézelay.
Bien, les éléments sont posés, venons-en à l'homme qui nous intéresse ce soir, Georges Bataille. On rappellera donc qu'il est né en 1897 et il naît à un moment aussi où son père est un homme malade. Il naît dans des conditions, dans une famille un peu particulière tout de même.
Tout à fait, dans une famille particulière parce que son père est syphilitique, et son père est paralysé et cela va beaucoup marquer Bataille durablement. Là, je lis simplement un texte où il explique cela. « Je suis né d'un père syphilitique. Il devint aveugle, il l'était quand il me conçut, et quand j'eus 2 ou 3 ans, la même maladie le paralysa. Jeune enfant, j'adorais ce père. Or, la paralysie et la cécité avaient ses conséquences, entre autres. Il ne pouvait, comme nous, aller pisser au lieu d'aisance. Il pissait de son fauteuil. Il avait un récipient pour le faire. » Il pissait devant moi, sous une couverture, qu'aveugle, il disposait mal. Le plus gênant, d'ailleurs, était la façon dont il regardait. ne voyant nullement sa prunelle dans la nuit, se perdait en haut sous les paupières. Ce mouvement se produisait d'ordinaire au moment de la miction. Il avait de grands yeux, très ouverts, dans un visage émacié, taillé en bec d'aigle. Généralement, s'il urinait, ses yeux devenaient presque blancs. Il avait alors une expression d'égarement.
Là, on retrouve déjà le thème de l'œil qui va aussi trouver une place un peu plus tard dans l'œuvre de Bataille. Alors, un père, effectivement, à la fois presque aveugle, aveugle et paralytique. Et puis, l'épisode de la Première Guerre mondiale qui va être un élément traumatisant pour le jeune Bataille et qui va nourrir en lui un sentiment de culpabilité qui peut-être ne l'a jamais quitté.
Tout à fait. Donc, en août 1914, donc, les batailles vivent alors dans la ville de Reims et la ville est cernée par les Allemands. Puis les Allemands font, l'armée allemande fait son entrée dans la ville. Et donc, Madame Bataille et son plus jeune fils, donc Georges, vont abandonner le père paralytique donc dans cette ville. Bataille le dira à plusieurs reprises, il a éprouvé de cet épisode une énorme culpabilité et aussi, bon, c'est peut-être pas assez souligné, une sorte de complicité évidemment avec sa mère.
Alors la difficulté aussi pour Bataille, c'est qu'il retrouve son père. Alors que celui-ci est mort, il reverra son père dans un cercueil.
Voilà, tout à fait. Il n'aura plus l'occasion de le revoir. C'est la guerre. Le père meurt l'année d'après, en 1915. Et Bataille ne l'a pas revu, bien sûr. C'est ce qui fait une part de cette culpabilité dont on vient de parler. Alors bien sûr, plus tard, il écrira ce livre « Le coupable », qui a priori n'a rien à voir, puisqu'il est question très très peu du père dans « Le coupable », mais c'est vrai que la notion de culpabilité est essentielle donc chez Bataille, dans sa vie bien sûr, comme dans son œuvre.
Alors on peut dire aussi que Bataille va rentrer en religion par opposition au père.
Oui, alors il rentre en religion en août 14. Décidément, août 14, c'est une grande date pour Georges Bataille, puisque c'est concomitant avec l'abandon du père. Il se fait baptiser, puisque son père est radical socialiste, c'est un fonctionnaire de la Troisième République type, qui bouffe volontiers du curé, on va dire. Sa mère était indifférente en matière religieuse, et Bataille n'a pas été baptisé, et il demande le baptême donc à 17 ans, pas tout à fait, enfin presque 17 ans, en août 14, et il va être un catholique très, très dévot, assisté à la messe tous les matins, jusqu'à, on ne sait pas très bien d'ailleurs, jusqu'à la fin des années 20, ou au début des années 22. C'est assez indécis. Mais ça veut dire que c'est une parenthèse qui dure assez longuement. C'est plus qu'une parenthèse, on va dire. Et puis surtout, dans l'année scolaire 1917-1918, il va donc passer cette année au séminaire à Saint-Flour, et il a, à ce moment-là, du moins, une vocation pour devenir moine ou prêtre, plutôt moine d'ailleurs, dans son esprit, vocation qu'il va abandonner assez rapidement.
Et alors, à côté de la religion, Bataille est un grand lecteur, il est fasciné par le Moyen-Âge.
Il est fasciné par le Moyen-Âge, c'est vrai qu'il a été élève à l'école des Chartes, il est archiviste paléographe.
Brillant,
oui, très brillant.
Premier de sa promotion.
Et il n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir vu ses mérites, effectivement. Mais il a consacré sa thèse à l'école des Chartes, donc à un texte du Moyen-Âge, l'ordre de chevalerie, et c'est vrai que les ordres teutoniques de chevalerie l'ont beaucoup intéressé. Et au Moyen-Âge, le Moyen-Âge est une période qui pour lui est fascinante. Il est fasciné par le personnage de Gilles de Rais, par exemple, par un livre comme « La sorcière » de Michelet, qu'il préfacera un peu plus tard. Et puis, il a beaucoup étudié les manuscrits. C'est vrai que c'est son métier, on pourrait dire, hein, comme le manuscrit de l'Apocalypse de Saint-Sevé, un manuscrit du XIe siècle qui est à la Nationale, sur lequel il a fait un texte assez célèbre pour la revue Documents.
Christian Limousin, si vous le voulez bien, on va souffler un peu, on va marquer une première pause. Nous écoutons un extrait du Don Giovanni de Mozart et on se retrouve d'ici quelques minutes. Thank you.
Porrello presso in tavola, son prontissima a servir, son prontissima a servir. Ave spento e miei lanari, io mi voglio divertir. Poi suonate amici cari, già che spento e miei lanari, io mi voglio divertir, io mi voglio divertir. Bravi, cosa rara! Che ti par del bel concerto?
Conforme al vostro merto.
Che piatto saporito, che piatto saporito, che piatto saporito.
Che barbaro appetito, che bocconi da gigante, mi par proprio di svenir.
Nel veder i miei bocconi, mi par proprio di svenir.
Che barbaro appetito, che bocconi da gigante,
nel veder i miei bocconi, par proprio di svenir.
Che barbaro appetito,
mi par proprio di svenir.
Che bocconi da gigante,
mi par proprio di svenir. Piatto,
servo. E vivano i litiganti,
versa il vino. Eccellente Bartimino,
questo pezzo di fagiano,
piano voglioti, sta mangiando quel marrano, fingerò di non capir.
Un extrait du Don Giovanni de Mozart sur votre radio locale. Retour à la vie et à l'œuvre de Georges Bataille avec notre invité Christian Limousin. Je rappelle que Christian Limousin donnera une conférence vendredi 29 juin prochain à 18h30 à la Maison Gérois. Conférence qui aura pour thème Bataille à Vézelay. Et finalement, ce soir, on a déjà un peu l'opportunité et la chance d'entendre parler de Bataille sur Radion. Alors, Christian Limousin, nous avons effectivement souligné l'attachement très très profond à la religion catholique de Bataille, religion qu'il va renier. Et puis, il faut dire aussi que Bataille a cette formule « j'ai la tête la mieux organisée qui soit », ce qui ne l'empêche tout de même pas d'écrire « je ne suis pas un philosophe, mais un saint peut être un fou ». Alors la folie a-t-elle guetté Georges Bataille, et est-ce que la folie l'aurait éloigné de la religion ?
La folie, assurément, guette Georges Bataille. Il note à plusieurs reprises, il qualifie son père de fou, sa mère de folle, et il y a une véritable crainte, et lui-même dit « j'écris pour ne pas devenir fou ». En même temps, il écrit aussi « j'ai la tête la mieux organisée qui soit ». Donc il y a tout ce jeu par rapport à la folie, mais la folie c'est d'abord des images terribles. Bon, l'image de son père effectivement urinant sur lui, les yeux blancs, etc. Il y a cette image donc de corrida espagnole, Manuelo Granero à Madrid, qui a la tête fracassée par les cornes du taureau, et il assiste à cette corrida. Il y a la photo du supplice des 100 morceaux, donc
Alors peut-être, Christian, faudrait-il expliquer ce qu'est cette photo des supplices des 100 morceaux ?
Oui, alors, Bataille va très mal, justement, en 1925. On est là dans les environs de la folie, si on veut. En tout cas, il éprouve le besoin de se faire psychanalyser par le docteur Adrien Borel, qui est l'un des premiers psychanalystes français. On est en 25, hein. Donc il y a encore très peu de psychanalystes. Et Adrien Borel, donc conscient de son mal, lui donne très tôt, d'ailleurs, dans l'analyse, une photo du supplice chinois des 100 morceaux. Alors, de quoi s'agit-il ? Mais c'est au début une photo qui a été prise à Pékin, au début du XXe siècle, en 1905, on ne sait pas très bien exactement. Et le supplice des 100 morceaux consiste, le condamné étant vivant, à prélever donc sur son corps 100 morceaux, à le découper en somme en 100 morceaux. L'homme est bourré d'opium pour qu'il puisse malgré tout supporter la douleur jusqu'au bout, je ne sais pas. Mais cette photo a absolument fasciné Georges Bataille. Il l'a portée sur lui toute sa vie, ou contemplée. Quand je dis contempler, c'est regarder d'une façon tout à fait particulière, jusqu'à aller donc à l'extase en regardant cette photo. Donc il y a tout un réseau d'images terribles que le texte de Bataille va justement travailler. Et la folie de Bataille, peut-être, c'est de mettre le doigt là où ça fait mal, là, le couteau dans la plaie. Sa littérature ne va pas être une littérature qui cherche à guérir ou à cautériser, mais au contraire, vraiment à aller toujours vers l'impossible. Ce serait ça, en somme, la folie de Bataille, c'est d'aller jusqu'au bout.
Ce que Bataille aime, ce sont les martyrs, les rituels, les sacrifices dans différentes civilisations, y compris les plus reculées. Lui recherchait quelque part à créer une nouvelle religion.
Tout à fait. Donc ça, c'est l'époque d'Acéphale, hein, où il a dit clairement qu'il recherchait à fonder une nouvelle religion. Donc Acéphale, c'est de 1936 à 1939. Donc ce sont les réunions, effectivement, en forêt de Saint-Germain. C'est tout un rituel. Et donc ils avaient, paraît-il, puisque c'est une société secrète et on ne doit pas dire ce qui a été fait ou envisagé, donc ils pensaient aller jusqu'au sacrifice donc de l'un d'entre eux. Et cela n'a pu avoir lieu parce que si on avait trouvé la personne à sacrifier, on n'avait pas trouvé celui qui allait la sacrifier ou le sacrifier.
Alors, quelle position prend Georges Bataille dans la tourmente des années 30 qui voit d'un côté le totalitarisme soviétique, de l'autre la montée des périls avec le fascisme en Italie et l'hitlérisme en Allemagne? Bataille se positionne comme un républicain convaincu, plutôt à gauche.
Alors Bataille, le terme de républicain ne convient pas du tout à Bataille. Bataille ne fait pas la moindre confiance aux démocraties bourgeoises. Il ne fait confiance ni aux démocraties ni aux partis communistes. C'est la raison pour laquelle il va créer avec André Breton donc ce mouvement, hein, contre-attaque à la suite du 6 février, pardon, 1934.
L'agitation
des ligues. Et ils vont unir leurs forces, donc les amis de Bataille et les amis de Breton, pour trouver des armes différentes de celles du PC ou des démocraties pour lutter face à la montée des fascismes. En 38, il sera résolument anti-munichois. Et c'est une époque, les années 30, très riche pour ce qu'on appelle le Bataille politique, où on voit un homme qui est littéralement possédé par une rage de voir cette montée des périls, une rage parfois impuissante, mais qui essaie de trouver justement les moyens. Et les moyens, c'est parfois d'utiliser les armes de l'ennemi, c'est-à-dire face au mythe fasciste, de trouver de nouveaux mythes, hein, par exemple l'acéphale, l'homme sans tête, c'est une réponse au mythe nazi, évidemment du chef, hein, celui qui a la tête, et bien Bataille enlève la tête justement à son homme, acéphale. Voilà par exemple très simplement cette opposition de Bataille au fascisme et au totalitarisme. Alors par rapport au stalinisme, il a été averti très tôt de la situation en URSS, puisqu'il a fréquenté tout début des années 30, donc Boris Souvarine, et Boris Souvarine était un exilé russe, enfin exclu du Parti communiste par Staline, qui avait atterri donc à Paris, et Bataille était par ce biais-là très informé, effectivement, y compris des premiers camps, y compris évidemment de la lutte contre les trotskistes et les opposants au régime de Staline.
Alors Christian Limousin, vous avez évoqué les prises de position de Bataille avec les intellectuels de l'époque par rapport à la montée des fascismes en Europe. À quel moment Bataille produit-il ses premiers textes? Et de quoi parlent les premiers textes de Georges Bataille?
Alors, les premiers textes de Bataille, ils sont tout à fait complètement hétérogènes. Bataille est un chartiste, un archiviste paléographe, et ses premiers textes sont des textes, il travaille à l'époque au cabinet des médailles à la Bibliothèque nationale, ses premiers textes sont des articles de numismatique. Ce sont des articles finalement très sages de quelqu'un qui pense justement faire carrière, comme on l'a dit, à la Bibliothèque nationale. Et puis, il y a parallèlement, et sous le manteau, et sous des pseudonymes, toute une production érotique, voire pornographique, et c'est notamment, bien sûr, Histoire de l'œil, qu'il publie donc en 1927.
Alors, Histoire de l'œil, ça surprend tout de même, on ne peut pas le mettre entre toutes les mains.
Voilà, et c'est un livre qui sera jamais assimilé parce qu'il est inassimilable, je dirais. Il sera toujours, il va conserver sa charge érotique très longtemps.
Et il est vrai que les jeunes gens dans ce roman s'adonnent à des, comment dire, des actes sexuels débridés.
Tout à fait débridés. Alors il y a un lien avec la psychanalyse, puisque c'est le livre que le docteur Adrien Borel lui aurait dit d'écrire finalement, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de ses fantasmes. Au lieu de réfréner finalement, de refouler toutes les images fantasmatiques, érotiques que l'on peut avoir en soi, eh bien il s'agit d'en faire de la littérature. Et Bataille rendra constamment hommage à Adrien Borel. S'il a écrit, dit-il constamment, c'est grâce à Adrien Borel, à qui il dédicacera le premier numéro de chacun de ses ouvrages.
Alors, Georges Bataille a aussi beaucoup fréquenté des prostituées, les bordels, il aimait voir les filles se dénuder,
tout à fait,
les prendre sur ses genoux et pleurer, leur raconter sa vie, et quelque chose de touchant. Et d'étrange quand même toujours chez Bataille, Christian Limousin.
Oui, surtout que c'est une vie, une double vie, une vie. Bataille, c'est Janus. Le jour, il est effectivement un fonctionnaire extrêmement policé à la Bibliothèque nationale. Et la nuit, il y a cette vie nocturne, donc, dans les tripots, les boîtes de striptease et les bordels. Et Bataille, c'est quelqu'un qui fait qui va essayer de faire malgré tout le lien entre tout ça. Il n'y a pas le lien entre finalement la raison et la folie, il va essayer d'articuler tout ça. Maintenant, sur sa vie nocturne, bien sûr, c'est l'un point de discorde avec André Breton, par exemple, qui l'appelle le philosophe excrément, qui l'appelle effectivement, qui le rejette en raison de sa vie érotique, dont Bataille justement fait mention, il ne la cache pas, mais au contraire, est-ce provocation ou est-ce... Mais non, c'est la vérité. Il est, je pense, quelque part pour la vérité, et il n'a pas caché qui il était, avec cette notion donc d'homme total qu'il reprend à Sade.
Georges Bataille a quand même toujours été infidèle avec toutes les femmes qu'il a connues au cours de sa vie, parce qu'il y en a eu beaucoup des femmes au cours de sa vie.
Oui, mais je pense qu'en esprit, il est resté étonnamment fidèle aux femmes qui ont vraiment compté pour lui. Sylvia Bataille, donc sa première épouse, il s'occupe d'elle pendant la guerre puisqu'elle est d'origine juive. Ils ont une correspondance et ils se verront jusqu'à la fin de sa vie. Il va vivre dans le souvenir et même la dévotion donc de Laure Colette Peignot, avec laquelle il a vécu de 34 à 38. Ensuite, bon, c'est vrai, bon, il y a bien sûr des femmes qui ont compté pour lui.
Denise Rollin,
oui. On peut mentionner Denise Rollin. Et puis, bien sûr, alors il y a les prostituées. Il y a cette prostituée, Violette, dont qu'il a voulu tirer justement de la prostitution et dont il a été très amoureux au début des années 30 et pour laquelle il a dépensé l'héritage de sa mère en partie. Voilà, c'est ça la bataille, c'est l'héritage de maman, je vais le claquer avec des prostituées.
Les temps longues, redoutables, le requin tue sans merci, le surin au fond de la poche, sans reproche, c'est maquillé sur les bords. La Tamise, le sang coule dans la nuit. On périt les poches vides, poches pleines. Quelqu'un fuit. Jenny Toller. Agonise un couteau entre les seins sur la rive dans l'eau grise. Monsieur Mackie se lave les mains et la veuve d'âge tendre viole dans son lit, que l'on vole sans attendre le gentleman, eh oui, c'est Mackie. Incendie sur la ville, le feu brille.
Dans le cadre du cinquantenaire de la disparition de Georges Bataille, ce soir, nous recevons un des cofondateurs du collectif Lire Bataille 2012, Christian Limousin, qui est devant notre micro. Alors, il faut bien expliquer, Christian Limousin, aux auditrices et auditeurs, que au début de carrière d'écrivain, Bataille publie des livres, mais de manière très clandestine, des livres qui circulent sous le manteau en raison de leur teneur, en raison de leur contenu érotique, voire pornographique, ou choquant, enfin c'est scandaleux.
Voilà, sous le manteau, ça veut dire avec des pseudonymes, donc Histoire de l'œil, c'est publié sous le nom de Lord Hoche. Et à 134 exemplaires, donc ça veut dire c'est réservé aux amis et à quelques bibliophiles avertis, on va dire.
Et alors il y a le bleu du ciel, on va revenir à ce fameux bleu du ciel. Alors le bleu du ciel est écrit en 1935, mais sera livré plus tardivement au public dans les années 50.
Voilà, Bataille l'écrit au printemps 35, donc en Espagne. Il réside alors près de Barcelone, donc chez son ami André Masson, à Tossa de Mar. Et ce livre qu'il termine, qu'il envisage de publier même chez Gallimard, avec l'intervention d'un ami, André Malraux, par exemple, ne se fait pas, parce que finalement d'autres amis lui déconseillent, et le livre ne paraîtra qu'en 1957, pour ses 60 ans, justement, chez Gallimard. Donc c'est un livre qu'il a eu pendant plus de 20 ans dans ses tiroirs, on va dire.
Alors, ce bleu du ciel, c'est le récit scandaleux, selon Michel Suria, le biographe, je ne sais pas si c'est le biographe officiel de Bataille, mais en tout cas...
Ben, c'est pas officiel, il est le seul.
Suria, donc, dit que le bleu du ciel est le récit scandaleux de la vie d'un homme, des 5 mois de la vie d'un homme, qui s'appelle Henri Troppmann, qui est présenté comme un détraqué sexuel, et l'action se situe entre juin et novembre 1934. Enfin, du moins, l'action dans le temps est facile à déceler.
Voilà, donc c'est l'époque de contre-attaque dont on a parlé. C'est l'époque, évidemment, où tout va mal en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que le roman est un roman européen. C'est la déambulation à travers quelques villes, quelques capitales, donc, de ce héros, Henri Troppmann, qui est effectivement, la plupart du temps, ivre, détraqué sexuel. Je ne sais pas si ça lui convient exactement, mais il semble au bout du rouleau, extrêmement fatigué et incapable d'avoir une position politique face à certains de ses amis, du moins, qui s'engagent. Le livre commence à Londres, ensuite nous passons à Paris, à Barcelone, et va se terminer donc en Allemagne, à Trèves, qui a comme caractéristique d'être la ville natale de Karl Marx. Donc évidemment, c'est pas rien n'est choisi, rien n'est le fait du hasard plutôt. Chez Bataille.
Alors vous allez, Christian Limousin, nous lire un extrait du Bleu du ciel. Est-ce que vous pouvez situer peut-être le passage dans l'œuvre ?
Oui, donc le passage fait partie de la deuxième partie du Bleu du ciel intitulée Le jour des morts. Et nous sommes précisément donc le 2 novembre 1934, comme vous l'avez dit, donc à Trèves. Le personnage féminin qui accompagne Henri Troppmann est une certaine Xénie, qui tient un grand rôle dans le roman. Il y a plusieurs femmes, dont elle. Et ils viennent d'assister donc à un défilé d'Hitlerjungen, des enfants de 10 à 15 ans, dit Bataille, vêtus d'une culotte courte et d'un boléro de velours noir. Alors pour expliquer vraiment le texte, il faut dire qu'en Allemagne, pour la fête des morts, donc il y a une habitude qui est de mettre de petites bougies sur les tombes. À un tournant du chemin, un vide s'ouvrit au-dessous de nous. Étrangement, ce vide n'était pas moins illimité à nos pieds qu'un ciel étoilé sur nos têtes. Une multitude de petites lumières, agitées par le vent, menaient dans la nuit une fête silencieuse, inintelligible. Ces étoiles, ces bougies, étaient par centaines en flammes sur le sol où s'alignait la foule des tombes illuminées. Je pris Dorothy par le bras. Nous étions fascinés par cet abîme d'étoiles funèbres. Dorothy se rapprocha de moi. Longuement, elle m'embrassa dans la bouche. Elle m'enlaça, me serrant violemment. C'était depuis longtemps la première fois qu'elle se déchaînait. Hâtivement, nous fîmes hors du chemin, dans la terre labourée, les 10 pas que font les amants. Nous étions toujours au-dessus des tombes. Dorothy s'ouvrit, je la dénudai jusqu'au sexe. Elle-même, elle me dénuda. Nous sommes tombés sur le sol meuble, et je m'enfonçai dans ce corps humide, comme une charrue bien manœuvrée s'enfonce dans la terre. La terre, sous ce corps, était ouverte comme une tombe, son ventre nu s'ouvrit à moi comme une tombe fraîche. Nous étions frappés de stupeur, faisant l'amour au-dessus d'un cimetière étoilé.
Merci Christian Limousin. Donc c'était un extrait du Bleu du ciel, cimetière de Vézelay, où repose donc à l'heure actuelle Georges Bataille, une tombe d'ailleurs très, très discrète, très, très sobre. Et puis le corps, on voit que le corps est très 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 présent. On peut dire que Georges Bataille est un écrivain du corps.
Tout à fait, donc
c'est pas la belle âme de Romain Rolland, par exemple, voisin.
Mais c'est bien, oui, de les opposer, parce que tous les opposent ou presque, sinon que tous les deux recherchent d'une certaine façon peut-être l'extase, mais c'est de deux façons qui me semblent extrêmement différentes. Oui, Bataille et c'est sensible dans Le Coupable, c'est vraiment un corps qui se déplace pendant la guerre, donc dans le soleil ou dans la nuit, et qui évolue.
Alors on va nous faire une nouvelle petite pause. On écoute Mahogany de Kurt Weill et on se retrouve d'ici quelques minutes pour évoquer, si vous le voulez bien, Christian Limousin, l'installation de Georges Bataille à Vézelay, c'est-à-dire à partir de 1943.
Das wäre Ihr Mädchen, Herr Jakob Schmidt. Wenn Ihre Hüfte keinen Schwung hat, dann sind Ihre 50 Dollar Dreck aus Wellblech.
30 Dollar.
30 Dollar. Ach, bedenken Sie, Herr Jakob Schmidt. Ach, bedenken Sie, was man für 30 Dollar kriegt. 10 Paar Strümpfe und sonst nichts. Ich bin aus Havanna, meine Mutter war eine Weiße. Sie sagte oft zu mir, mein Kind, verkauf dich nicht für ein paar Dollarnoten, so wie ich es tat. Schau dir an, was aus mir geworden ist. Ach, bedenken Sie, Herr Jakob Schmidt. Ach, bedenken Sie, Herr Jakob Schmidt.
Toujours à bord de Wagon Livre ce soir pour une émission qui rend hommage et qui évoque la vie et l'œuvre de l'écrivain Georges Bataille, disparu en 1962. Georges Bataille qui a vécu, qui a travaillé à Vézelay, il y est d'ailleurs enterré. Nous sommes ce soir donc avec notre invité Christian Limousin qui donnera le 29 juin prochain à 18h30 une conférence à la Maison Jules Roy à Vézelay, conférence qui aura pour thème Bataille à Vézelay. Alors on en parle déjà ce soir sur Radion. Je voudrais aussi mentionner l'article de notre invité, Christian Limousin, dans la Revue des Deux Mondes du mois de mai dernier, revue d'ailleurs disponible sur le site internet de la Revue des Deux Mondes. Il faut dire, Christian Limousin, une interview que vous avez accordée à Édith de la Héronnière, autre écrivain de Vézelay, j'allais dire presque le seul écrivain vivant à Vézelay, c'est Édith de la Héronnière.
Oui, enfin, il y en a quelques autres qui passent à Vézelay, Pascal Fautrier notamment. Voilà, mais c'est vrai qu'elle a, elle habite la maison de Georges Bataille, on va dire.
Donc je mentionne donc l'entretien de Christian Limousin et d'Édith de la Héronnière dans le numéro de mai 2012 de la Revue des Deux Mondes. Entretien intitulé « Vers une colline athéologique ». Eh bien, Christian, nous allons monter justement un peu vers cette colline, et nous n'y montons pas seuls, puisque nous y montons en compagnie de Georges Bataille. Alors, Bataille, qu'est-ce qui fait que Georges Bataille, lui qui avait des postes à Paris ou dans différentes villes en France, comment se fait-il que Bataille se trouve attiré par ce qui n'est qu'un village dans les années 40?
Tout à fait, village de paysans. C'est un village de paysans, gonflé, c'est vrai, par l'arrivée massive donc de réfugiés. Mais si vous avez tout à fait raison de signaler que c'est bien sûr c'est un village et que jusqu'à présent Bataille a été plutôt l'homme des villes, de Paris bien sûr, qu'il va quitter. Alors il est malade, il est atteint de tuberculose pulmonaire et il est en congé donc de maladie de la Bibliothèque nationale et il cherche un lieu donc quelque part en France tranquille pour se soigner. Pourquoi pas Vézelay? Et peut-être que l'endroit lui a été soufflé par Paul Éluard qu'il fréquente en 1942. Toujours est-il qu'il va arriver donc en mars 43 dans une petite maison de la rue Saint-Étienne où il va s'installer là pour l'année 43, mais il y reviendra jusqu'à sa mort en 1962 dans cette maison qu'il ne cessera de louer. Alors c'est une petite maison, on dit petite, elle a quatre grandes pièces malgré tout, austère, voilà, très très austère sur la rue, et qui a un seul luxe finalement, une chance pour Bataille, c'est cette terrasse sur laquelle il va passer en 1943 surtout de longs moments, de jour comme de nuit, à se reposer d'abord dans sa chaise longue, puisqu'il est tuberculeux, et même s'il n'est pas toujours un malade facile, qui se soigne facilement, il espère bien guérir.
Alors en 1943, donc je l'ai déjà dit, Vézelay est un village de paysans, c'est un village occupé par les Allemands. Hein. En 43, il faut dire donc bataille à 46 ans, la basilique est close, et en plus le puits est contaminé puisque les Allemands y ont jeté apparemment un cadavre.
Tout à fait, l'ambiance est assez sinistre. Et c'est dans cet environnement un peu étrange que Bataille arrive pour continuer son expérience intérieure. C'est le titre du livre qu'il publie d'ailleurs exactement au moment où il arrive, donc au printemps 1943. Son premier livre sous son vrai nom, publié chez un grand éditeur, donc Gallimard. Et je vous lis la première phrase du livre où il définit justement ce qu'est l'expérience intérieure. « J'entends par expérience intérieure ce que d'habitude on nomme expérience mystique, les états d'extase, de ravissement, au moins d'émotions méditées. Mais je songe moins à l'expérience confessionnelle, et il met confessionnelle en italique, à laquelle on a dû se tenir jusqu'ici, qu'à une expérience nue, libre d'attache, même d'origine, à quelque confession que ce soit. C'est pourquoi je n'aime pas le mot « mystique ». Donc l'expérience intérieure, on peut traduire bien sûr comme expérience mystique, tout en sachant donc qu'il n'aime pas ce mot.
Alors, on peut dire, peut-on dire, Christian Limousin, que Bataille veut rechercher une extase laïque, en fait. Il balaye l'extase religieuse.
Tout à fait, parce que l'extase religieuse ne cherche qu'une seule chose, donc arriver à Dieu, atteindre Dieu, se perdre en Dieu. En fait, l'extase, Bataille, il ne sait pas ce qu'il y a au bout de l'extase. Pour lui, elle n'a pas à être bornée, limitée à Dieu. Il veut aller donc au-delà du bien et du mal, comme disait Nietzsche. Mais il veut surtout se perdre. L'extase, elle est pour se perdre. Elle est pour rien, en somme. Elle n'est pas pour atteindre une quelconque béatitude divine. Donc ces illuminations, parce qu'il emploie aussi le mot emprunté à Rimbaud sans doute, ces illuminations sont profanes, ce sont des instants souverains, comme il le dit aussi, et immanents. L'immanence est très importante pour lui, c'est pas du tout l'extase transcendante, donc encore une fois. Bataille considère Vézelay pas du tout comme un haut lieu, de la spiritualité, de la chrétienté, du christianisme, mais plutôt, peut-être, il l'inverse, il retourne Vézelay pour en faire un bas-lieu, ou en tout cas une colline athéologique, hein, c'est-à-dire qui rompt avec la théologie, c'est-à-dire avec cette visée qui a la religion, qui a Dieu toujours en ligne de mire. Et Bataille n'a rien, il ne sait pas ce qu'il a en ligne de mire. Au bout de il veut vivre l'expérience tout en ne sachant pas ce qu'il attend de l'expérience.
Est-il iconoclaste ?
Iconoclaste, je ne sais pas dans quel sens vous l'entendez. Il adore les images, donc il ne veut pas les supprimer.
Mais par exemple, ce qu'il aime, c'est les diableries. Il aime les chapiteaux avec les diables de la basilique. Alors, est-il vrai qu'il aurait disposé des clés de la basilique alors que ce superbe bâtiment était fermé au public pendant l'occupation ?
Alors, c'est vrai qu'on trouve cette information, par exemple, dans son biographe, Michel Suriac, que vous avez cité tout à l'heure. Il faut voir que lorsque Bataille arrive à Vézelay en mars 43, il n'est pas un écrivain pour la population, pour le public. Il est donc un bibliothécaire de la Bibliothèque nationale, et c'est en tant que tel que peut-être on a pu lui remettre les clés de la basilique. En somme, il est chartiste, spécialiste du Moyen-Âge. On retourne là vers l'un de nos points de départ. Il faut voir que quand il aura la Légion d'honneur, puisque Bataille aura la Légion d'honneur à Orléans, c'est en tant que bibliothécaire, pas du tout en tant qu'écrivain. L'écrivain, on ne le connaîtra finalement qu'après sa mort, à partir de 1970, et la publication des œuvres complètes. Il faut bien le dire que c'est une œuvre tout à fait souterraine.
Je ne sais pas si nous allons, nous, atteindre l'extase, cher Christian, mais en tout cas, un nouvel intermède musical, « J'ai rêvé d'une fleur » par Cora Madou. À tout de suite. «
j'ai rêvé d'un amour qui durerait toujours. Mais il est passé, le rêve que j'ai fait, et j'ai perdu l'espoir de le vivre un seul jour. Pourquoi faut-il, hélas, que sur la terre les amours et les fleurs soient toujours éphémères? J'ai rêvé d'une fleur qui ne mourrait jamais. J'ai rêvé d'un amour qui durerait la ville n'est que folie. Les plus tendres romans sont décevants. Le bonheur passe, l'amour se lasse, et le désir s'envole au gré du vent. J'ai rêvé d'une fleur qui ne mourrait jamais. J'ai rêvé d'un amour qui durerait toujours. Mais il est insensé, le rêve que j'ai fait, et j'ai perdu l'espoir de le vivre un seul jour. Pourquoi faut-il, hélas, que sur la terre les amours et les fleurs soient toujours éphémères? J'ai rêvé d'une fleur qui ne mourrait jamais. J'ai rêvé d'un amour durerait toujours.
Retour à bord de Wagon Livre ce soir avec Christian Limousin qui est notre invité pour évoquer Georges Bataille. Nous nous sommes quittés sur l'arrivée de Bataille à Vézelay. Georges Bataille n'est pas seul à Vézelay.
Pas du tout, non. Quand on lit le coupable, on a l'impression qu'il l'est. Mais en réalité, donc, il arrive avec sa maîtresse de l'époque, Denise Rollin, avec le fils de celle-ci, il y aura sa fille, Laurence Bataille, sa première fille. Il y aura des amis qui vont venir séjourner, certains assez longuement, comme Michel Fardoulis-Lagrange. Enfin bref, il n'est pas seul du tout. Et puis, il y a les gens dans le village avec lesquels il peut dialoguer.
Et alors, ce qui est amusant, Christian Limousin, c'est que Bataille parle avec les paysans de Vézelay, peut-être même dans des cafés d'Avalon.
Voilà, oui, on a plusieurs témoignages là-dessus. Je vous en cite un, donc il émane de son beau-frère Jean-Piel, le directeur de la revue Critique, celui qui continuera la revue Critique. Je le cite, « J'ai toujours été impressionné par l'attention avec laquelle il était capable de s'entretenir longuement avec les plus humbles, les plus insignifiants en apparence. Il s'intéressait à leurs problèmes, s'enquérait de leurs préoccupations, des horaires de leur vie quotidienne, comme s'il se fût agi de choses de la plus grande importance. C'est ainsi qu'à Vézelay, je me souviens l'avoir vu poursuivre d'interminables conversations avec tel facteur de campagne ou tel boutiquier de village qu'il interrogeait avec une inlassable curiosité. » Il montrait dans ses questions tant de tact et de discrétion qu'on eût pu penser qu'il ne s'agissait pour lui que de se montrer extrêmement poli et civil avec le premier venu.
Alors vous dites aussi qu'il allait chercher du vin à Fontette, le vin de Vézelay qui lui faisait d'ailleurs mal au ventre.
Voilà, c'est ce qu'on, un témoignage dans une lettre à Dora Maar, son ancienne maîtresse avant l'épisode de celle-ci avec Picasso. Mais c'est vrai que j'aurais envie de peindre un bataille au quotidien, un bataille, le corps dont on a parlé tout à l'heure, qui effectivement boit du vin, va au lieu d'aisance, c'est ce qu'il dit dans Le Coupable. Et je crois que Vézelay permet cela, permet d'aborder un bataille, parce que c'est vrai que le bataille, le personnage, son œuvre font un peu peur. Il y a à Vézelay un bataille tout à fait quotidien, qui regarde la colline d'en face, qui se perd la nuit dans la contemplation des étoiles. Il y a tout cela qui est extrêmement touchant.
Nous savons que Bataille donc a reçu à Vézelay Paul Éluard et sa femme Nuche, l'architecte Jean Badovici. Et puis, quel lien Bataille a-t-il pu avoir avec le couple Zervos? Est-ce que des...
Le couple Zervos, ben, je crois qu'ils peuvent se rencontrer, mais ce ne sont pas des intimes. Ils ont des relations, finalement, d'éditeur à éditer, puisque Bataille a publié trois textes dans les cahiers d'art de Christian Zervos. Mais qu'on peut dire qu'il y a le cercle des Zervos, il y a le cercle de Bataille, il y a un élément qui interfère, c'est Paul Éluard, qui est entre les deux, si l'on veut. Mais voilà, on ne peut pas dire qu'ils se fréquentent abondamment, ils se croisent plutôt.
Alors dans ce petit village de Vézelay, village de paysans, comme nous l'avons dit, certains religieux cachent des enfants juifs, et il y a quand même de la résistance à Vézelay, il se passe des choses. Est-ce que Bataille a été complice de cette résistance?
Bien sûr, il y a de la résistance. Alors Bataille a un point de vue assez particulier, c'est le nini, il est ni résistant ni collaborateur. En même temps, il cache Michel Fardoulis-Lagrange, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est recherché et qui quittera Vézelay pour aller d'ailleurs en prison. Mais bon, on peut dire que Bataille, il est dans un temps extatique, justement. Il est un peu hors du temps à Vézelay. Et Vézelay lui donne sans doute la possibilité de cela, qu'il n'aurait pas à Paris avec le milieu et l'ambiance intellectuelle. Il est un peu ailleurs. C'est assez particulier, il faut lire Le Coupable pour avoir cette sensation étrange. Il ne parle pas, par exemple, des batailles, il ne parle pas de la suite de Stalingrad, il ne parle pas... Alors qu'on sait que dans la vie quotidienne, il s'intéressait, qu'il avait même à Vézelay une carte sur laquelle il regardait l'avancée des troupes soviétiques vers l'ouest, etc., etc.
Bataille découvre Vézelay en 1943. Alors ensuite, il y a l'épisode où il retournera sur Paris plus tard. Il y aura d'autres mutations quand même, en tant que bibliothécaire, enfin en tant que conservateur. Mais Vézelay a toujours été un point d'ancrage fort. Cette maison est restée aux Bataille.
Tout à fait, c'est une sorte, je la qualifierais de base arrière, c'est-à-dire cette maison offre la possibilité, eh bien, lorsqu'on a un problème ou des vacances, d'y venir, d'y revenir. Et Bataille aimait beaucoup y venir au printemps, notamment autour de Pâques, qu'il passait à Vézelay.
Il faut dire aussi que cette maison, donc qui se trouve au 59 de la rue Saint-Étienne, à l'heure actuelle, il y a une plaque d'ailleurs qui précise qu'il s'agit de la maison de Georges Bataille. Et il faut dire que cette maison a abrité les amours de Bataille avec une femme sortie d'on ne sait tout presque, qui est Diane de Kotchoubé.
Voilà, qui est un personnage absolument romanesque, puisque leur rencontre l'est en 43, et donc ils vont revenir en 45 cette fois-ci ensemble. Ils vont d'abord donc être amants, puis compagnons, puis Diane sera la mère de la seconde fille de Georges Bataille, et puis finalement ils vont se marier en 1951. Mais bien sûr que cette femme qui est princesse, enfin d'origine princière, qui descend donc des Beauharnais, d'Eugène de Beauharnais, elle s'appelle d'ailleurs Eugénie, c'est son second prénom, Eugénie Joséphine de Beauharnais. Il y a eu vraiment une inscription par rapport au Beauharnais. Est arrivée à Vézelay à la suite d'une succession de hasards, puisqu'elle a planté dans une carte de France donc une épingle, et que l'épingle lui a donné, s'est plantée sur Vézelay. Et donc elle est venue à Vézelay avec sa première fille au printemps 43, et c'est là qu'elle a rencontré Georges Bataille, qu'elle a d'abord lu, puisque des amis lui ont donné l'expérience intérieure qui venait de paraître. Elle a été très intriguée par ce livre, et elle a voulu rencontrer l'auteur. Et c'est au début, donc, une admiration littéraire qui les a réunis.
Et elle est devenue la dernière femme de Georges Bataille. Alors, Georges Bataille meurt à Paris, et sera inhumé à Vézelay. Il meurt le 8 juillet 1962. Juste avant de nous quitter, Christian Limousin, Bataille allait saluer une femme de Vézelay qui avait été tondue à la Libération pour avoir eu des relations avec des Allemands.
Tout à fait, c'est cette volonté un peu de tout renverser, d'aller à l'encontre de la bienséance, il ne s'agit pas de bienséance, mais réparation. Bataille aimait réparer, il fallait réparer effectivement le dommage que l'on avait fait à Nietzsche en l'associant au nazisme, et ici je vous lis cette relation de Jacques Pimpanot. Hein. Pour moi, Bataille, c'était celui qui, quand on allait se promener à Vézelay et que l'on passait devant une certaine boutique au bas de la rue, s'arrêtait toujours pour saluer la dame très effacée qui la tenait, parce qu'à la fin de la guerre, on l'avait tondue et promenée à travers le village, sous prétexte qu'elle aurait fait l'amour avec un soldat allemand. Et ce qui prime pour Bataille, bien sûr, c'est faire l'amour avec un soldat allemand sur la mauvaise réputation que l'on a pu faire à cette malheureuse femme.
Merci Christian Limousin d'avoir évoqué ce soir Georges Bataille devant le micro de Wagon Livre. Je rappelle donc tout proche de nous la conférence que vous donnerez le vendredi 29 juin prochain à 18h30 à la Maison Jules Roy, donc Bataille et Vézelay. On peut retrouver aussi le très bel entretien que vous avez accordé à la Revue des Deux Mondes, le numéro du mois de mai 2012, qui est en vente par internet sur
Et
dans toutes les bonnes librairies, parce qu'il y a encore de bonnes librairies. Et puis on peut aussi, via un moteur de recherche, on tape « Lire Bataille 2012 » et on arrive sur le blog qui énumère toutes les manifestations qui se tiennent jusqu'au mois d'octobre.
Et oui, je terminerai au mois d'octobre par Bataille et Zervos.
Merci encore, Christian.
Merci à vous.
Merci et bonne soirée.
Bonne soirée également.
Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21h, même fréquence, Radion 90.5. Nous accueillerons un champion, oui. Raymond Poulidor, 76 ans, retracera sa carrière de cycliste. C'est mercredi 4 juillet prochain à bord de Wagon Livre sur votre radio locale. Raymond Poulidor a mis un terme à sa carrière à 41 ans en 1977 et notre invité nous fera revivre les grands moments de sa carrière et nous tournerons en sa compagnie les plus belles pages du cyclisme des années 60 et 70. Le duel de légende avec Jacques Anquetil, le Tour d'Espagne en 64, le Tour de France 68, enfin avec Raymond Poulidor, mercredi prochain, on ouvre l'armoire à souvenirs. Excellente soirée à toutes et à tous, merci de votre fidélité, au revoir. Thank you.